Bonsoir à tous. 118 grammes d'or pour une palme qui pèse lourd au cinéma. La 74e édition du Festival de Cannes s'achève ce soir. Suspense, aucun favori ne se dégage nettement. Corinne Pélissier sur les marches dans un instant. La pression des anti-vax, plusieurs milliers de manifestants aujourd'hui en France, contre le pass sanitaire et contre ce qu'ils considèrent comme une dictature sanitaire. Entre colère et résignation en Belgique et en Allemagne, après les inondations sans précédent, le bilan s'alourdit, il approche 170 morts en Europe. La piste criminelle privilégiée à Marseille après l'incendie ce matin dans un squat et la mort de 3 personnes. Dans ce journal également, le Tour de France, 20e étape et victoire dans le contre-la-montre de Wout van Aert, Pogacar plus que jamais en jaune. Du rugby, la France s'incline sur le fil 33-30 face à l'Australie à Brisbane. Le temps pour demain, chaud et ensoleillé. Jean-Pierre Hameau à la fin de ce journal.
France Inter.
Encore quelques minutes à attendre avant de connaître la Palme d'Or du Festival de Cannes, épilogue ce soir donc de la 74e édition. La cérémonie de clôture va débuter dans quelques minutes en direct du Palais des Festivals. On retrouve Corinne Pélissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Le jury s'est réuni en conclave pour délibérer. Les stars montent les marches et la cérémonie va donc pouvoir débuter, Corinne.
Et oui, c'est ce même jury de Spike Lee qui devrait normalement fermer le banc d'ici quelques minutes de cette dernière montée des marches en forme d'hommage au cinéma resté fermé pendant plus de 6 mois cette année. Plusieurs équipes des films du label Cannes 2020, privées de festival l'an passé, ont posé ensemble il y a quelques minutes. Les organisateurs ont voulu cette soirée de clôture comme une grande fête autour du palmarès qui sera, je peux vous le dire, cette année très cinéphile. Alors il faudra remettre les récompenses dans le bon ordre d'ici 20h30. Mais on peut dire sans trop se tromper maintenant que Titan, Memoria, Drive My Car, Le Genou d'Aed, Nitram, Julie et le film Un héros d'Asghar Farhadi seront au palmarès cette année. Les équipes de films ont été rappelées, elles sont en train d'arriver. Première à fouler le tapis rouge, celle du film australien Nitram, avec Caleb Gondry-Jones qui devrait rafler ce soir le prix d'interprétation dans un film autour du contrôle des armes à feu. L'équipe du film Julie aussi, son éblouissante comédienne norvégienne Renate Rensve, qui est arrivée dans une longue robe dorée très sobre. Vincent Lindon, il y a quelques minutes, chez Julia Ducournau, qui était en train de signer des autographes aux abords du palais. On va encore voir d'autres équipes arriver, on les attend d'une minute à l'autre. 24 films étaient en compétition cette année pour succéder à la Palme d'Or Parasite du sud-coréen Bong Joon-ho et surtout à son succès au box-office avec près de 2 millions d'entrées il y a 2 ans.
Corinne Pélissier avec Full Sentimental en fond sonore. Corinne, on vous retrouve à 19h15 après ce journal. Émission spéciale pour cette soirée de clôture et le palmarès du festival avec tous nos envoyés spéciaux autour de Christine Masson et Laurent Delmas. Plusieurs milliers de personnes aujourd'hui dans les rues en France pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une dictature sanitaire. À Paris, dans au moins 3 rassemblements, des sceptiques, des anti-vaccins convaincus et d'anciens gilets jaunes ont défilé contre la vaccination et l'extension du pass sanitaire. Et aujourd'hui encore, quelques tracts détournant l'étoile jaune avec la mention « pass sanitaire » était visible. Le reportage à Paris de Claire Checaglini.
Liberté, liberté. Au milieu des drapeaux tricolores et des banderoles « Stop à la coronafolie » ou encore « Un vaccin pour les gouverner tous », un homme d'une 50aine d'années, message anti-pass sanitaire sur sa chemise, il ne veut donner ni nom ni prénom.
Si je décide de ne pas me vacciner, je pourrais pas aller voir ma mère qui est en EHPAD à Montpellier. Rien que ça déjà, c'est terrible.
Pas question pour autant d'accepter une quelconque injection, pas besoin d'ailleurs selon lui, puisque le Covid ne serait nullement dangereux.
J'ai attrapé le Covid et j'ai été voir un médecin complotiste, qu'on dit complotiste, et ça en 3 jours c'était fini.
CQFD, d'où la dénonciation par cet autre manifestant d'un régime totalitaire.
Je suis là parce qu'on a un système dictatorial et la démocratie elle s'en va où? Avec des conneries sur un Covid qui n'existe que très peu.
En tête de cortège, le ton est quasi identique.
Un espèce de tyran est venu nous dire lundi soir qu'il y aurait 2 catégories de citoyens maintenant en France.
Florian Philippot, ex numéro 2 du Front National.
Quand on peut même plus rentrer dans un restaurant sans faire un test ou un vaccin, il y a un petit souci quand même. Enfin, ça existe, vous me direz, au Pakistan.
Message avant tout politique plus que sanitaire, tout comme le prouvent nombre de slogans.
Et face à cette mobilisation des anti-vaccins, Jean Castex, en déplacement à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques, a défendu le pass sanitaire et la vaccination. Le projet de loi sera présenté après-demain lundi en Conseil des ministres. Pour le Premier ministre, la vaccination, c'est la seule solution.
Nous allons procéder par expérimentation. pour préparer les secteurs concernés le mieux possible. La ligne est claire, nous devons vacciner, nous devons déployer le pass sanitaire. C'est indispensable pour nous protéger, pour réaliser le plus d'activités possible, pour éviter d'avoir à prendre des mesures de freinage fortes comme on en a connues. Faites-vous vacciner, ça marche. Soyez solidaires les uns des autres pour que nous sortions ensemble de cette crise qui malheureusement se poursuit.
Jean Castex, propos recueilli par Anthony Michel de France Bleu Pays Basque. À Marseille, l'enquête sur l'incendie meurtrier ce matin dans un squat s'oriente vers une piste criminelle. L'incendie a causé la mort de 3 personnes, 3 migrants nigérians. Les 3 personnes ont sauté du 8e étage. L'une d'elles tenait un bébé de 2 ans dans ses bras. Selon les enquêteurs, il y a eu 2 départs de feu dans l'immeuble. Sur place à Marseille, Clémentine Sabrier, France Bleu Provence.
C'est l'hypothèse privilégiée après la découverte de 2 départs de feu distincts, l'un au 6e étage, l'autre plus bas dans la cage d'escalier. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Elle doit déterminer qui a allumé ces incendies. Pas de piste spécifique annoncée pour l'instant, mais la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurence, s'inquiète des relations entre les trafiquants de drogue et les Nigérians qui squattent l'immeuble. La plupart sont des demandeurs d'asile. Se rencontrer sur place explique qu'ils payent les trafiquants pour habiter là. 200 euros par mois pour un appartement insalubre, sans électricité, sans eau. Et souvent, il y a des tensions. Comme hier, quand une rixe a éclaté entre squatteurs et dealers. La procureure appelle au calme. Elle lance aussi un appel à témoignages, notamment pour recueillir la version des migrants nigérians.
Le chaos et le deuil en Allemagne et en Belgique après les inondations sans précédent de ces derniers jours. Le bilan s'est encore alourdi. Au total en Europe, le bilan des inondations approche 170 morts. En Allemagne, 133 personnes sont mortes. Angela Merkel, la chancelière allemande, se rendra demain sur les lieux des inondations. Les intempéries ont fait des dégâts aux Pays-Bas et dans l'est de la Belgique, en particulier dans la région de Liège où au moins 20 personnes ont trouvé la mort. Liège où les secours sont aujourd'hui encore à la recherche de disparus et où les habitants groggy constatent les énormes dégâts. Angélique Boin.
Non, ça c'est pas l'ancien pont, ouais.
Stupéfaite, ces 2 liégeoises reconnaissent à peine le petit renfoncement de la rue du Gravier. On venait y siroter des bières en bord de rivière, mais le café Le Vieux Moulin n'existe plus, littéralement avalé par la crue.
Le café faisait un courbier à terrasse là-bas, c'est effrayant.
En face, les façades ont tenu, mais les rez-de-chaussée sont ravagés. Armés de balais et de raclettes, en bottes, certains en tongs, habitants et commerçants trient le peu qui reste à sauver. Ils chargent des camions bennes dans lesquels s'entassent des meubles à jeter.
Il y a eu 2 mètres d'eau partout. Moi, j'ai une boulangerie, tout, je suis sinistré, il n'y a plus rien. Caisse enregistreuse, four, congélateur, tout est foutu. Ça fait 40 ans que j'habite à Chennai, ça n'est jamais arrivé.
On est en vie, mais encore sonné. On s'est senti si seul, confie cette jeune femme qui s'est réfugiée, comme d'autres, à l'étage de sa maison.
On a essayé de sauver ce qu'on pouvait, et puis on a sauvé nos forces. On n'a vraiment eu aucune information, à part des informations vers 23h, minuit, mettez un drap si vous voulez être secouru, mais plus personne n'avait de batterie. Déjà, plus aucun réseau. Je me demande comment ça se fait à l'heure actuelle qu'on n'ait pas de réseau. Vraiment, c'est catastrophique.
Le balai des camions bennes devrait se poursuivre toute la journée. Liège, Angélique Boin, France Inter.
En Afghanistan, des pourparlers entre des représentants du gouvernement afghan et des talibans ont lieu au Qatar, alors que sur le terrain, de violents combats les opposent. Et dans les régions qu'ils contrôlent, les talibans imposent leurs règles, barbe obligatoire pour les hommes, femmes sous tutelle. Dans le même temps, les forces étrangères se retirent d'Afghanistan. Ce matin, un vol spécial affrété par la France a décollé de Kaboul à destination de Paris. 100 de passagers à bord, pour moitié des ressortissants français, pour l'autre des Afghans. Mardi dernier, la France a appelé tous ses ressortissants à quitter le pays. Reportage à Kaboul, Sonia Gizel.
Bakar Arefi pousse un chariot chargé de plusieurs grosses valises. Derrière lui, son épouse en larmes et ses enfants. Le gestionnaire comptable afghan de l'ambassade de France part le cœur lourd mais soulagé.
La plupart du temps, c'était vraiment difficile parce que là, le matin, je changeais mes horaires de venir au bureau, je changeais mes itinéraires. Le matin, quand je sortais de chez moi, quand je quittais la maison, j'étais pas sûr de revenir, vraiment. Là, quand l'avion est arrivé et que maintenant je suis à l'aéroport, donc je me sens plus en sécurité, je me sens soulagé.
Malidjan Husseini, lui, part seul. Le jeune enseignant de l'Institut français d'Afghanistan rêve d'une vie en paix, loin de la violence.
Maintenant, j'ai l'honneur de continuer mes études au niveau master, au niveau doctorat. Pour moi, c'est un grand changement dans ma vie personnelle et professionnelle. Oui, je suis très content.
Bakar, c'est là que t'accompagne.
Ça lève ma campagne.
Sur le parking, les adieux se prolongent. Une cinquantaine d'Afghans affiliés à l'ambassade a pris le vol affrété par la France, ainsi qu'une trentaine de Français. Il en resterait près de 70 toujours en Afghanistan. Sonia Ghazali, Kaboul, RFI pour France Inter.
Le Tour de France, 20e et avant-dernière étape. Aujourd'hui, un contre-la-montre entre Libourne et Saint-Émilion. Sur la ligne d'arrivée, on retrouve Fanny Lechevestrier. Bonsoir Fanny.
Bonsoir Frédéric.
Victoire d'étape de Wout van Aert. Tadej Pogacar assure son maillot jaune et sans doute sa victoire demain dans le Tour.
Oh oui, le Slovène n'a pas réussi cet après-midi à décrocher une quatrième victoire d'étape sur ce tour. Huitième seulement, entre guillemets, du contre-la-montre, battu par plus fort que lui, tout simplement. Vous l'avez dit, par un super Wout van Aert, le Belge. L'un des grands bonhommes de ce tour également, vainqueur de deux étapes mythiques, le Mont Ventoux et sa double ascension historique. Et donc aujourd'hui, du chrono dans les magnifiques vignobles bordelais. Tout cela après avoir été opéré de l'appendicite, tenez-vous bien, un mois avant le début du tour.
C'est quand même fou, c'était un grand objectif de gagner ici et j'étais vraiment concentré sur ce jour pendant les derniers jours de montagne. Donc oui, je suis très heureux.
Et Pogacar n'a bien sûr pas tout perdu, vous l'avez dit Frédéric, avec le maillot jaune de vainqueur du Tour qui l'attend demain sur les Champs-Élysées. Le deuxième de sa carrière s'il vous plaît, à seulement 22 ans Frédéric.
Alors côté français, Guillaume Martin est bien accroché à sa 8e place au général Fanny.
Superbe performance pour lui, un premier français du Tour qui s'est battu comme un beau diable pour défendre cette 8e place aujourd'hui dans un exercice qu'il n'aime guère pour être gentil. C'est à 28 ans le premier top 10 tout simplement de sa carrière.
Le premier français, c'est un peu anecdotique, mais 8e place, c'est une vraie satisfaction. Elle n'était pas gagnée cette 8e place avant ce dernier chrono. L'écart était faible avec Bilbao et j'ai défendu chèrement ma peau. J'avais pas des super sensations sur ce chrono, mais j'ai fait avec ce que je pouvais. Et voilà, c'est une performance individuelle, mais évidemment une performance collective.
Et on verra un Français aussi sur le podium. Demain, c'est la bonne nouvelle du jour à Paris avec Franck Bonamour qui remporte le prix de super combatif du Tour pour son tout premier tour sous les couleurs de BNB.
Le podium sur les Champs-Élysées, c'est incroyable. Hein, j'y aurais pas cru, c'est exceptionnel. J'espérais jamais faire aussi bien et je suis très content de moi.
Et les Français qui, comme les 142 coureurs restants, sont, vous savez quoi, Frédéric, tout simplement heureux de voir le bout de ces 3 semaines de course ultra rapide. Ils n'en peuvent plus. Écoutez le témoignage de Dorian Godon ce soir.
Ah, c'était horrible. Il ne restait plus grand-chose de ces 3 semaines. Et j'ai tout mis. J'ai crevé de chaud. Il faisait 14 degrés il y a 2 jours. Et c'est que tout le Tour de France était comme ça. Et là, j'ai eu vraiment chaud à la fin, parti vent dans le dos. Et j'ai fini comme j'ai pu. Donc, il y avait du public pour nous soutenir pour finir à bloc quand même. Voilà, content que ce soit terminé et à tête demain à Paris.
Rincé, mais heureux, la présence du public en nombre coloré, déguisé, parfois un peu aviné, il faut le reconnaître, qui restera comme l'une des grandes images de ce tour, retour à la vie tout simplement.
Fanny Lechevestrier avec Lucien Lefebvre, on vous retrouve Fanny demain pour le final sur les Champs-Élysées du rugby avec la tournée de l'équipe de France en Australie et une nouvelle frustration pour les Bleus battus de peu, 33 à 30 ce matin à Brisbane lors du 3e et dernier test match, les Australiens remportent la série par 2-1. L'équipe de France s'incline donc sur le fil, même s'ils ont joué pratiquement toute la rencontre à 15 contre 14 Australiens. Mais pour le Français, le bilan est positif. Anthony Gelon, capitaine des Bleus pour la tournée.
Moi, je vais retenir qu'on a passé une aventure extraordinaire, que les mecs que j'ai découverts ici, certains je ne les connaissais pas, mais on a créé des liens énormes. On a fait, même s'il n'y a pas cette victoire de la tournée, je suis très fier de toute l'équipe. J'ai rencontré des amis maintenant. Et là, on va rentrer tous dans nos familles. Et je pense que les familles sont fiers de nous, que le public français est fier de nous, même si on n'a pas rapporté cette victoire ce soir. Mais voilà, c'est que du positif et franchement, je suis heureux quoi, ce soir.
Anthony Gelon, le capitaine de l'équipe de France de rugby. Le temps pour demain.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Jean-Pierre Hameau.
Demain matin, vous allez retrouver une bonne tartine de grisaille entre le Massif central, le Lyonnais, la Bourgogne-Franche-Comté et jusque vers la plaine d'Alsace, sans oublier les entrées maritimes du côté du Pays Basque. Et puis toute cette grisaille doit se dissiper avant la fin de la matinée. Dans les autres régions, le soleil sera au menu de votre matinée. L'après-midi, l'ensoleillement sera souvent généreux. Prévoyez un peu plus de nuages, des Pyrénées au Massif alpin en passant par l'Auvergne. Des averses parfois orageuses vont se développer avant la fin de la journée du côté du Queyras et de la vallée de l'Ubaye. Et puis côté température, les minimales au lever du jour évolueront généralement entre 13 et 17 degrés. Comptez 18 à 23 près de la Grande Bleue. Les maximales seront estivales, comprises entre 25 et 35 degrés. On attend 25 au Havre, 26 à Dijon, 27 à Lille et Nancy, 28 à Brest, comptez 29 à Paris comme à Limoges et Nice, 30 degrés à Bordeaux et Toulouse, 33 à Perpignan, 34 à Bastia. Le mercure va jouer avec la barre des 35 degrés à Marseille.